France Musique.
Les grands entretiens. Dominique Boutel. France Musique.
Je m'appelle Betsy Jolas. Je suis née le 5 août 1926 à Paris. Et je suis compositrice.
Betsy, merci d'accepter de remonter dans le temps pour faire ce portrait. Et on va évidemment commencer par votre famille. Surtout que, bon, c'est une famille quand même assez particulière, très artiste en tout cas.
Certainement, oui.
Oui.
Non, j'ai la chance d'avoir été conçu dans un environnement extrêmement favorable. D'ailleurs... Très vite, comme enfant, quand on se pose des questions sur son avenir, il y avait des professions que je n'aurais jamais envisagées. Pas du tout parce que mes parents m'avaient dit qu'il ne fallait pas le faire, mais parce que, tout simplement, c'était pas dans l'optique de la famille. Je sentais ça obscurément. Je pensais que je ne serais jamais bancaire, comme on dirait. Je ne pensais pas que je pourrais faire des affaires. Et je pensais par contre à toutes sortes de professions artistiques, mais toutes sortes. Je pensais que je pourrais être écrivain, je pourrais être peintre. Que j'ai fait beaucoup de peinture d'ailleurs comme petite fille, enfin jeune fille. Je pensais que je pourrais être chanteuse, danseuse, pianiste. J'avais un peu de mal parce que j'avais du mal à travailler mon piano. Surtout, j'avais pas un très bon professeur. Alors c'est un petit peu cet environnement qui va probablement façonner ma vie future, je pense. Hein. C'est-à-dire mon père était poète et journaliste et il a fondé une revue qui a fait date, qui s'appelle Transition. J'ai été, disons, entouré de personnages extrêmement célèbres, mais moi j'étais une petite fille, enfin je ne les fréquentais pas. À l'époque, les petites filles, on les mettait dans une autre pièce et on les envoyait coucher le soir. Hein. Donc, c'est pas vraiment vrai que j'ai rencontré, comme on dit dans mes biographies, j'ai pas rencontré Hemingway, j'ai pas rencontré Gertrude Stein, mais par contre, j'ai rencontré James Joyce et j'ai rencontré Henri Matisse, par exemple. J'ai quand même le souvenir de ces personnes dans ma vie, mais dans ma vie de petite fille.
On va peut-être remonter quand même un petit peu en arrière, avant toutes ces rencontres absolument passionnantes que faisaient vos parents. Justement, qu'est-ce qui faisait que vos parents connaissaient tout ce cercle d'artistes et d'intellectuels ? Donc votre mère, elle, est américaine.
Mes deux parents sont américains, ce qu'on ne sait pas. Et moi, je suis à moitié américaine.
Voilà.
Je suis une compositrice franco-américaine. Et je voudrais bien qu'on le sache. On oublie toujours cet aspect de ma carrière qui est finalement coloré par le fait que j'ai une double culture. Et je l'ai, cette double culture. Je parle anglais couramment, très couramment. Et je lis en anglais, je lis en français. Les deux langues, pour moi, sont absolument équivalentes. Elles n'ont pas toujours été. Parce que je suis né ici, donc j'ai parlé français bien avant de parler anglais.
Down in the south where a sly old possum hides in a sycamore tree, there lived a coon named Rufus Blossom, black as a nigger could be. Ruf had a head like a big sledgehammer, mouth like a terrible scar, but nothing could touch him in all Alabama when he played on his old guitar. Don't make no blunder, you couldn't lose him. A perfect wonder, they had to choose him. A great musician of high position was a whistling Rufus, that one man band.
Ma mère est américaine de très longue date, c'est-à-dire que sa famille est venue d'Écosse au XVIIe siècle, aux États-Unis. Mais quand même, ma mère donc vient d'une famille qui s'est établie dans le sud des États-Unis. Ça, c'est important aussi.
Oui.
Ça, c'est important. Parmi les documents que je garde précieusement, j'ai le journal de mon arrière-grand-mère qu'elle a tenu pendant la guerre de Sécession. Donc tout ça, ça fait partie de ma culture. Il se trouve que ma mère avait une très belle voix et qu'elle a été remarquée très vite, et puis qu'elle était extrêmement intelligente, il faut dire, très ouverte à tout ce qui l'entourait. Très vite, on s'est aperçu qu'elle avait des talents et des possibilités, et son père, qui était quelqu'un de remarquable aussi, l'a envoyé faire des études, ce qui n'était pas tellement courant pour une jeune fille du Sud, d'aller faire des études à New York. Donc elle a fait des études, c'était des études générales, et la musique en faisait partie. Elle me racontait, par exemple, qu'on les a emmenés à l'opéra. Elle a entendu diriger Mahler. Très vite, on s'est aperçu qu'elle avait cette très belle voix. Son père a décidé de l'envoyer faire des études en Europe. Donc elle s'est retrouvée à Berlin en 1912 et 13, faire des études de chant. Et elle a donc appris tout le répertoire de Lieder qu'elle m'a transmis très très tôt. Dès que j'ai pu jouer du piano, je l'ai accompagnée. Ça a été très important. Mais en même temps, elle avait une tellement bonne oreille qu'elle retenait absolument tout ce qu'elle entendait, c'est-à-dire qu'elle avait auparavant, dans son enfance, retenu toutes les chansons que chantaient les domestiques noirs de sa maison. C'est-à-dire qu'elle avait donc un répertoire de Negro Spiritual que personne ne connaît. Des chansons que j'ai heureusement enregistrées, mais qui sont historiques, certaines. Elle retenait aussi ce qu'elle entendait ailleurs, parce qu'elle, après ça, elle va revenir à Paris. Elle est donc à Berlin jusqu'à la guerre, avec l'idée qu'elle allait retourner après. Elle ne savait pas qu'il y avait la guerre. Elle rentre pour l'été, puis la guerre se déclenche, évidemment. Elle ne peut pas revenir à Berlin. Donc, après la guerre, elle va revenir à Paris. Alors, je vais du côté de mon père maintenant. Les parents de mon père, mes grands-parents, se sont rencontrés aux États-Unis. Mon grand-père est arrivé aux États-Unis en 1893. Il n'a pas perdu de temps, comme je le dis, et il a épousé ma grand-mère aux États-Unis. Et très vite, sont nés mon père, le premier. Et le deuxième, c'était Jacques Jolas, son frère. Par la suite, les parents, toujours très pauvres, ont décidé quand même de revenir au pays pour voir la famille. Donc mon père a été élevé en Lorraine allemande. Donc il y avait deux frères américains qui se sont trouvés être les artistes de la famille, c'est-à-dire mon père poète, journaliste, et mon oncle pianiste. Il a fait une petite carrière. Mon père a été élevé en Lorraine allemande, sous la domination prussienne. Donc sa première langue, c'était l'allemand. Et à l'âge de 15-16 ans, mon père a décidé de retourner aux États-Unis, de se débrouiller. Et il a bientôt été suivi par son frère. Tous les deux étaient très jeunes, ils avaient 16-17 ans, ne parlaient pas anglais du tout. Ils ont trouvé des petits boulots. Mon père était livreur d'épicerie. Mon oncle arrive là-bas, il sait jouer du piano, hein, donc il trouve un poste dans un bar. Tous les deux ont été courageux, et ils étaient jeunes, et ils voulaient vraiment y arriver. Mon père était totalement fasciné déjà. Et petit à petit, il a fait son chemin. Enfin, il a commencé à se faire embaucher dans un journal allemand à Pittsburgh. Ça ne devait pas être très drôle. Mais il était absolument furieux contre ces vieux Allemands qui ne voulaient pas apprendre l'anglais. Et lui, il l'a appris très vite. Donc, il a trouvé un autre travail de journaliste dans un journal du Connecticut, de faire des reportages sur les voitures. C'était assez drôle.
Dominique Boutel, Les Grands Entretiens, France Musique.
Mon père a fini par trouver un travail à Paris, avec le Chicago Tribune. Donc ma mère revient à Paris et elle commence à prendre des leçons de chant avec ce nouveau professeur qui connaît le frère de mon père. Et elle l'invite, ma mère, une fois avec le frère de mon père, et puis elle lui dit, et puis j'ai invité son frère et il paraît qu'il est intelligent. Donc ça a été le coup de foudre, très vite, et moi je suis arrivé très vite aussi. Je suis né, et il a fondé sa revue, pratiquement la même année.
Donc la petite fille Betsy Jolas grandit la première partie de sa vie en France.
Oui, tout à fait. Jusqu'à l'âge de 14 ans, j'étais en France.
Et alors, Betsy, finalement, votre mère, qui avait démarré une carrière de chanteuse, l'interrompt.
Ma mère l'interrompt, mais elle a chanté toute sa vie. Elle n'a jamais arrêté de chanter. Elle chantait du matin au soir, et quand elle chantait pas, elle riait, enfin elle chantonnait. Sa voix a pénétré ma vie dès le début. Et quand elle recevait du monde à dîner, ça se terminait toujours par des chansons. Quand elle voulait commander mon père, par exemple, il lui disait « Sing Mariah, chante Maria, hein, pour la faire taire. Ça suffit. Chante. » Eh ben, elle se mettait au piano parce qu'elle jouait du piano. En plus, elle s'accompagnait elle-même. Ou bien, elle avait une guitare, elle savait jouer de la guitare.
Belle mine, belle mine, belle mine in the harbor. Belle mine, belle mine, belle mine in the harbor. They take belle mine and they put it in the dock and they paint belle mine black. Oh, they take Bellamina and they put it in the dark and they paint Bellamina black, 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 black.
Donc vous avez baigné, vous, Betsy, dans la musique et évidemment, on vous a mis à la musique quand vous étiez petite.
Oui, mais c'était ce qu'on faisait avec toutes les petites filles bourgeoises. On apprenait le piano. Non, ce qui s'est passé, c'est que très tôt, dans mon père fonde cette revue. Et très tôt aussi dans ma vie, ma mère a fondé une école d'avant-garde. On enseignait la méthode Montessori, on enseignait la rythmique d'Alcroze. Tout ce qui était un peu nouveau pour elle, c'était passionnant. C'est une histoire que j'ai souvent racontée, mais c'est tellement étonnant parce que l'activité de mon père me fascinait. Je me rendais compte qu'il faisait des choses bizarres. Je voyais les couvertures de transition qui me paraissaient complètement folles. J'étais le contraire de l'avant-garde. Moi, j'étais peut-être conservatrice.
Comme souvent les enfants, non?
Mais comme oui. Surtout les petites filles à l'époque. Les petites filles, il fallait être convenable. Il fallait pas être excessive. Et je me rappelle un jour avoir ouvert un numéro de transition et avoir vu de la musique. Et c'était deux pages de Ionisation de Varèse. Donc un numéro qui datait des années 32, 33 à peu près. Hein, je l'ai là ici. On peut vérifier, mais c'est pratiquement contemporain de la création de cette œuvre. Mon père avait rencontré Varèse sur le bateau et avec son espèce de flair extraordinaire qu'il avait pour tout ce qui était important, il avait dit « cet homme est important et je veux publier ces deux pages ». Mais moi, je regarde ça, petite fille, je dis « mais c'est fou cet homme-là qui écrit pour des instruments qu'on tape, c'est quoi ça ? C'est pas sérieux ?» Pour un peu, j'étais choqué.
Et alors donc, il y avait cette musique que produisait votre mère finalement en permanence.
Oui.
Est-ce qu'il y avait d'autres sources musicales à la maison? Par exemple, est-ce que vous écoutiez des disques?
Oui, alors justement, les disques, on était parmi les rares familles probablement à avoir une radio et des disques. Moi, je les écoutais, bien sûr. Alors, je ne sais pas si j'avais vraiment le droit de le faire, mais j'ai le souvenir d'avoir été totalement fasciné par l'objet. C'était une espèce de boîte avec un trou en dessous, et j'allais voir s'il y avait un orchestre qui jouait derrière. J'ai été extrêmement fasciné par certains disques qui sont restés dans ma mémoire. Il y avait l'air des clochettes de l'Acmé, par Galli Cucci, elle s'appelait. C'était une chanteuse italienne. Et puis, il y avait un autre disque dont je n'ai pas beaucoup parlé, mais qui a eu aussi une importance pour moi. C'était le ballet de Faust de Gounod, que j'ai repris dans mon opéra Schumann, vraiment de façon presque reconnaissable, sur lequel je dansais, à l'époque où je pensais que je pouvais être danseuse. Et évidemment, la mort de Boris par Chaliapin, qui me faisait très peur, mais que je mettais pour me faire peur. Vous savez, comme les enfants aiment bien se faire peur.
Quel griffon de
Et puis donc, vous le disiez, il y avait Betsy Jolas, il y avait la radio.
Alors, il y avait la radio qui était aussi un objet extrêmement mystérieux pour moi. Écouter la radio, c'était presque un rite. Et je me souviens très bien qu'on se réunissait de façon presque religieuse pour écouter une émission de mon oncle Jacques, retransmise en ondes courtes. À ce moment-là, il était aux États-Unis. Et je me rappelle être fasciné aussi par l'idée du téléphone transatlantique. On m'avait expliqué qu'il y avait des câbles le long du fond de la mer. Et donc, j'ai eu l'occasion à ce moment-là de parler à mon oncle au téléphone. J'imaginais ma voix serpentant au fond de la mer de façon extrêmement imagée. Et bien plus tard, j'ai écrit un morceau qui s'appelait « Teletalks » pour deux pianos, où les deux pianos se répondaient comme jadis les téléphones.
Betsy Jolas, est-ce que vos parents étaient mélomanes eux-mêmes, j'imagine, et vous emmenaient au concert ? Est-ce qu'il y avait une vie musicale très intense à Paris ?
Oui, ils m'ont emmené au concert. J'ai des souvenirs de concerts en particulier. Parmi nos amis, il y avait Désiré Engelbrecht. Donc, j'ai été emmené à un concert, je ne sais pas quel âge j'avais à ce moment-là, mais je n'ai aucun souvenir de ce qui a été joué. La seule chose qui m'intéressait, c'est de regarder ce que faisait... Je voyais le timbalier qui se mouchait, par exemple. Ça m'a fasciné, ça.
Et puis, Betsy Jolas, il y a eu la guerre.
C'est ça, mais avant la guerre, il y a quand même eu l'exposition, le 37, ça je me souviens. Et alors, on m'a emmené voir Le Train Bleu, décor de Picasso... Musique de Darius Milhaud. J'ai trouvé ça épouvantable. J'étais absolument horrifié. Vous voyez, j'étais vraiment pas prête à la modernité du tout. Et pourtant, j'en étais entouré. Je vois encore ces énormes femmes de Picasso. Je trouve ça horrible, horrible.
Et vous avez chanté pour l'exposition universelle.
Oui, ça c'est encore une chose très très bizarre. En effet, Engelbrecht, c'est lui, a demandé à ma mère de lui prêter,
ses enfants. Peut dire,
des enfants pour chanter une sorte de cantique et l'hymne national japonais. Jamais je ne comprendrai pourquoi, mais je ne l'ai jamais oublié. Je peux vous le chanter, mais je le ferai pas.
En japonais.
Absolument. Je ne saurais jamais pourquoi. Alors, je repense à mes expériences musicales à Paris. Il y en a une qui a été importante. Ma mère a fait venir une personne dont j'ai jamais entendu parler depuis, mais qui s'appelait Mademoiselle Mermino, je me souviens de son nom, qui est venue nous parler de musique. Elle est venue nous parler de Mozart. Et ça a été extrêmement important pour moi. Elle a donné des exemples, je suppose. Je ne sais même pas sur quel instrument, si elle a joué ou pas, je ne sais pas. Mais je me souviens du nom de cette femme parce que ça a compté dans ma vie. Je devais être assez jeune à ce moment-là.
Ce qui a compté, Betsy Jolas, c'est la découverte de la musique de Mozart.
Notamment.
Oui.
Et du fait qu'on pouvait être compositeur. Je ne savais pas, moi. J'ai mis des années et des années à imaginer que je pouvais l'être. Mais j'ai découvert que ce que c'était qu'un compositeur, et je me rappelle avoir, par la suite, quelqu'un a dû me l'offrir, un livre sur Mozart, dans lequel il y avait des exemples. Et je me souviens de mon ravissement lorsque je regardais ce livre et que je lisais les exemples et que j'avais l'impression de les entendre. C'était quelque chose pour moi d'extrêmement important.
Thank you.
qu'on revient dans les années 30 d'avant-guerre, enfin, disons à la limite de la guerre, beaucoup de gens quand même défilaient chez vous, et en particulier James Joyce, dont votre père a publié Finnegan's Wake dans sa revue, je crois.
Absolument. Oui, il venait, c'était un ami de la famille. Enfin, il me faisait un peu peur parce qu'il était, vous savez, il voyait très mal et il arrivait avec sa canne blanche et il tâtonnait. Enfin, moi, il me faisait un peu peur. Mais il était toujours très gentil, très doux, et il venait souvent dîner à la maison. Le dîner se terminait généralement en chanson.
Joyce était mélomane et musicien.
Mais Joyce chantait lui-même. J'ai eu le privilège d'accompagner Joyce et ma mère chantant des duos de Mendelssohn et Brahms. Je ne peux pas oublier ça. Et à l'issue d'une de ces séances, Joyce s'est assis et a commencé à écrire un poème et à le scander avec des longues, des brèves. Et puis il m'a dit que c'était pour moi. Il me l'a donné. Évidemment, c'est un trésor. C'était de Thomas Moore. Et c'est un très beau poème d'amour qu'il a donc écrit de mémoire. C'est très émouvant, ça. At the mid-hour of night, when stars are weeping, I fly to the lone vale we loved when life shone warm to thine eye. And I think oft if spirits can steal from the regions of air to revisit past scenes of delight, thou wilt come to me there and tell me our love is remembered even in the sky. Then I sing the wild song it once was rapture to hear, when our voices commingly breathed like one on the ear. And as echo far off through the veil my sad horizon rolls, I think, oh my love, 'tis thy voice from the kingdom of souls, faintly answering still the notes that once were so dear. Thomas Moore, 1779-1852.
Et pour clore ce premier entretien avec la compositrice Betsy Jolas, nous écoutions un extrait de son œuvre, Teletalks, enregistré à Pittsburgh par Amy Williams et Winston Choi au piano. Nous retrouvons la compositrice demain pour un second entretien. Merci à l'équipe qui a permis cette émission, Gilles Blanchard pour la réalisation, Jean de Robert, Philippe Bredin et Céline Tran-Nouvelle. Réécoute et podcast sur francemusique.fr.
Retrouvez toute l'actualité musicale sur francemusique.fr.